Bonjour à tous et à toutes, il est 18h et tout de suite c'est Première Page sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Non, c'est pas vrai!
Qu'est-ce que tu dis?
Maman ne m'a pas puni, elle n'a pas bien écrit.
Qui t'a dit comme t'avais puni?
C'est écrit là.
Voyons, mais... Tu sais lire?
Première Page, c'est la chronique littéraire pour lecteurs décomplexés. Un vendredi sur deux, à 18h, sur Radio Campus Paris. Dans ce 7e épisode, la fiction historique est à nouveau à l'honneur avec « Azincourt par temps de pluie » de Jean Tellet. Lorsqu'un romancier s'attaque à l'une des plus grandes défaites de l'histoire de France, c'est le début d'un récit historique drôle et instructif. Je m'appelle Louisa Georges et vous écoutez le 7e épisode de Première Page, un vendredi sur deux, à 18h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Je ne veux plus que Marcel rentre dans une classe, ni même ouvre un livre, avant l'âge de 6 ans. Celui-là encore.
On a tous connu ces passionnés d'histoire. Ces professeurs du dimanche qui s'improvisent penseurs le temps d'un repas de famille. Les fameux bons élèves, fiers de pouvoir hurler « 1515, c'est Marignan !» pour rappeler qu'à leur époque, l'école, ça filait droit et qu'on maîtrisait nos classiques. Mais quels classiques ? En l'occurrence, pour revenir à Marignan, si les dates sont connues et les protagonistes en général retenus, qui peut réellement parler du déroulé des faits ? Des enjeux diplomatiques, économiques, sociaux. Qui peut seulement citer Pavie, vaste rouste pour les Français menant 10 ans plus tard le score à 1-1 pour les Italiens. Car oui, si l'histoire est une œuvre de mémoire, certains ont la mémoire bien sélective. Et il est grand temps de dépoussiérer certains dits « grands événements », mais cette fois bien loin des bancs de l'école, si cela peut rassurer les plus réticents. Vous sentez cette acidité dans mon ton ? Eh bien, c'est tout naturel. Remercier la brillante équipe pédagogique qui m'a suivi au cours de mes études, détruisant l'un après l'autre tous les clichés et raccourcis historiques qui ont pavé mon parcours d'écolière. Quand on commence à étudier cette matière à Diderot, on nous apprend 3 choses. Les femmes existent, les peuples extra-européens également, et ce bien avant la colonisation, et l'histoire est une science et non un tableau figé dans le temps. Vous savez, ce fameux roman dans lequel les gentils et les méchants mènent une lutte sans merci pour le bonheur de la société, le progrès et l'amour de son prochain. Mais si, ce roman si cher à une émission bien connue dont je ne citerai pas le nom, au risque de m'attirer les foudres d'un présentateur bien aimé. Si je ne vais pas m'attaquer à Marignan aujourd'hui, c'est une toute autre bataille qui attire mon attention, bien moins victorieuse pour notre belle nation. Remontons 100 ans avant Marignan pour envisager avec un œil nouveau l'une des défaites françaises les plus célèbres, j'ai nommé Azincourt. Et pour assurer cette interlude historique, ce numéro sera un hommage tout particulier à Jean Tellet, écrivain mort il y a peu dont j'affectionnais tout particulièrement le travail. Sorti l'année de sa mort, l'épisode du jour est consacré à son tout dernier roman, Azincourt par temps de pluie. Je découvre Jean Tellet un peu par hasard, en tombant sur l'un de ses derniers ouvrages, Fleurs de tonnerre, sorti en 2013. Biographie de Hélène Jégado, célèbre empoisonneuse française qui a sévi au milieu du 19e siècle. Je tombe sous le charme instantanément. L'immersion historique est glaçante et le récit réellement comique. Dès ce premier roman, j'aime le travail de l'auteur, son regard cynique sur l'histoire de France et son langage cru. Car ce type de roman revient régulièrement dans son œuvre, comme dans « Mangez-le si vous voulez », paru en 2009, revenant sur le lynchage de l'affaire Hautefaille, « Charlie IX », sorti en 2011 sur la déroute du roi de France au cours de la Saint-Barthélemy, ou encore « Entrée dans la danse », paru en 2019, mais cette fois sur un format bande dessinée. Car oui, si j'apprécie l'auteur pour ses romans, Jean Tellet a d'autres cordes à son arc. Né le 26 février 1953 à Saint-Lô, dans la Manche, et mort le 18 octobre 2022 à Paris, notre écrivain est un romancier et auteur de bandes dessinées français. Il se fait notamment connaître en travaillant pour l'Écho des Savanes, mais il œuvrera également dans le milieu du cinéma et de la télévision sur Canal+. Passionné de poésie, il écrira sur différents auteurs, à l'image de son premier livre daté de 1991, Rainbow pour Rimbaud, auquel suivront une vingtaine d'ouvrages et un certain nombre d'adaptations sur grand écran. Avec Jean Tellet, l'histoire de France perd de sa superbe. Ce dernier ne s'embarrasse pas des convenances, mais c'est justement là que réside tout l'intérêt de son travail. Je choisis de parler aujourd'hui d'Azincourt par temps de pluie, car c'est sûrement le plus gros rouleau compresseur de son œuvre. Drôle, violent, absurde, ce roman met en lumière l'une des plus grandes déroutes de l'armée française, où quand 3 heures de bataille suffisent à redistribuer les cartes d'un système politique chancelant. Si l'œuvre de Tellet est considérée comme de la fiction, ce roman se base sur des sources historiques avérées. L'écrivain prend d'ailleurs le temps de remercier, je cite, « des collaborations plus ou moins volontaires » de travaux historiens sérieux sur la période. Si l'auteur prend des libertés dans les dialogues et certaines anecdotes, l'ouvrage reste malgré tout une bonne manière de prendre conscience de cette débâcle et du comique de situation. Azincourt partant de pluie, ça parle de quoi ? 25 octobre 1414. Charles VI, dit le Fol, règne sur la France et, comme son nom l'indique, n'est pas un appui très stable pour la nation. Considéré comme fou, ce dernier dit être en verre et évite les contacts physiques de peur de se briser. Il ne répond d'ailleurs plus de rien, allant jusqu'à ignorer son propre titre. En pleine guerre de 100 ans, il n'en faut pas beaucoup plus pour que le jeune roi d'Angleterre, Henri V, 28 ans, tente d'envahir la France pour récupérer tous ses fiefs perdus sur le territoire, la Normandie notamment. Après un mois de siège, les Anglais récupèrent Harfleur en septembre 1415. Le jeune prince, estimant la saison largement écoulée, décide d'abandonner son avancée sur Paris et migre vers le nord de la France par les côtes pour rejoindre l'Angleterre. Le 8 octobre donc, les Anglais se dirigent vers Calais. Ils fuient et ne s'arrêtent pas. Ils mangent ce qu'ils peuvent, ce qui les mènera notamment à récolter des moules pas fraîches laissées en bordure de plage. 2000 soldats mourront de la dysenterie sur le chemin. Sur la route de Calais, il y a Azincourt. Toute la chevalerie française, qui avait jusque maintenant ignoré cette courte invasion, s'y donne finalement rendez-vous et bloque les envahisseurs. Quand l'armée de Charles VI se retrouve face aux Anglais, dans cette vaste plaine, c'est deux salles, deux ambiances. Les envahisseurs, meurtris, épuisés, malades, sont en infériorité numérique avec 6000 hommes, face à une chevalerie française grandiose, richement parée et prête à en découdre du haut de ses 30 000 soldats. Face à l'absurdité d'un tel combat, le roi d'Angleterre tente de négocier le départ de son armée en échange d'Harfleur et de Calais. Mais la France refuse et déploie un étendard de mort, assurant qu'elle ne fera pas de quartier. Ça, les Anglais l'ont bien compris et le mettront en exécution pour se débarrasser de la quasi-totalité de leurs prisonniers. Car oui, malgré une victoire évidente de la noblesse, la météo en décidera autrement. En effet, la pluie ne cesse de tomber sur Azincourt et nos chevaliers en contrebas s'enfoncent à moitié dans un sol de plus en plus boueux. Lourds et trop nombreux, ils se feront massacrer par les archers anglais, plus mobiles et mieux positionnés. À 17h, c'est une fin de parcours. La bataille dure 3 heures, 10 000 morts pour les Français contre 1 600 Anglais. Une défaite majeure qui privera le royaume de France d'une élite militaire et administrative. En cause, des chevaliers à la bourre qui paieront pour leur péché d'orgueil. Marquant la défaite pathétique de ce que Jean Tellet qualifie en interview d'une belle bande d'abrutis. Mais alors, pourquoi ai-je tant aimé ce livre ? Déjà, parce que l'auteur s'amuse. C'est un livre court et efficace. On sent un certain exutoire dans la violence des mots et des actes. Jean Tellet semble jubilé de la tournure des faits et l'on est tenté de suivre son exemple, tant l'auteur nous rend les personnages antipathiques. Au-delà de la plume du romancier, on retrouve également le bédéiste avec des petits schémas à main levée répartis dans l'œuvre pour nous décrire le placement des armées, des infos stratégiques ou géographiques. La bataille est accessible et visible car ce n'est pas un historien à proprement parler qui nous la conte, mais un romancier à l'aide d'outils scientifiques bien rodés. L'ouvrage est riche en informations sur l'époque, les protagonistes, les usages et coutumes, offrant une expérience de vulgarisation historique plus attractive. L'auteur se réapproprie ses connaissances et, tel un metteur en scène, joue avec l'histoire de France avec une armée de marionnettes. Il les anime avec des dialogues cinglants dont il a le secret et des anecdotes toujours plus réalistes pour nous plonger, nous lecteurs, à leur côté. Si l'humour est toujours bien présent dans les romans de notre auteur, dans Azincourt, il domine, tant le ridicule saute aux yeux. En comparaison, si on prend l'exemple du roman Charlie IX, Jean Tellet y décrit un jeune roi dépassé par la situation, manipulé, moqué, détesté. Si le cynisme du romancier fait sourire, on est tout de même pris de pitié, et certaines anecdotes sont touchantes. Or dans ce roman, pas de place pour les bons sentiments. Bon, je me dois de faire tout de même un petit trigger warning. Les descriptions sont nombreuses et l'auteur se fait plaisir sur le gore. Mais j'avoue avoir beaucoup ri à la lecture. Si, si, vraiment. J'ai particulièrement aimé ce livre, car bon, il faut le dire, c'est très satisfaisant à lire. Dans cet ouvrage, l'écrivain s'attaque à l'orgueil de la chevalerie française, et plus largement à ce que la connerie humaine peut induire de pire dans l'histoire. Car bon, désolé pour cette digression, mais c'est bien fait. Si les Français rythment leur bataille sur des soi-disant idéaux de justice divine, de règles, de lois, de convenances, c'est pourtant ce qui causera leur perte. D'ailleurs, le sort semblait jouer d'avance, et c'est parce que le roman devait bien se finir, parce que ce retournement de situation est surprenant, que l'on jubile de cette fin cruelle et bien décrite. Mais là où Jean Tellet est brillant, c'est dans les différents niveaux de regard qu'il porte sur l'événement. Il alterne entre des warnings énormes sur le climat, le terrain, les erreurs stratégiques, et des détails et anecdotes qui, bien que mineurs, ont fait basculer la tendance. Et ça, même le grand livre de la chevalerie ne l'avait pas vu venir. Or, dès le début, la différence d'enjeu entre les deux camps met la puce à l'oreille. Si les Anglais jouent leur vie, les Français jouent à la guerre. L'armée d'Henri V est rachitique, et il est uniquement question de survie. Cette dernière n'a plus rien à perdre, face à une cavalerie française qui mène une bataille des apparences plutôt risible. L'auteur démontre parfaitement ce décalage en décrivant la veille des combats. Si les Anglais sont rongés par la peur, l'armée de Charles VI boit et mange en abondance. Certains ne parviennent même pas à rentrer dans leur armure le lendemain matin. Si l'on devait imaginer la noblesse du roi de France, ce serait une vaste cour de récré. « Je veux être devant, c'est moi le plus fort !» D'ailleurs, une fois la défaite évidente, le fameux « c'est pas du jeu » revient régulièrement, rappelant la tournure pathétique des événements. Car oui, c'est indéniable, les Anglais ne jouent pas avec les mêmes règles. Je pense notamment à une anecdote dans laquelle le duc de Brabant, frère du duc de Bourgogne, est persuadé de survivre à son emprisonnement car issu d'une haute lignée, mais sera massacré comme n'importe quel fantassin car tout simplement méconnu de ses ennemis. L'auteur insiste régulièrement sur l'utilisation du livre « L'arbre des batailles », ouvrage majeur de la chevalerie française sur lequel sont apposées les règles pour faire la guerre selon la Bible. Ouvrage qui coûtera notamment aux Français de ne pas utiliser sciemment de canons pour éviter un déséquilibre avec les Anglais qui n'en sont pas pourvus, ou de vouloir se placer à tout prix à l'avant du cortège en fonction de leur rang, qu'importe s'il faut raccourcir les lances pour ne pas s'embrocher les uns les autres. Des bêtises comme celle-ci, l'auteur nous en décrit une flopée, toute plus drôle et grotesque. Il nous dépeint avec humour et sarcasme le résultat navrant d'une chevalerie archaïque qui continue à mener ses batailles comme un grand jeu de société, régi par des règles inaliénables et un besoin incommensurable de reconnaissance et de bravoure. Mais la pluie ne cesse de tomber et Jean Tellet nous raconte avec brio cette longue descente aux enfers.
Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, squirming like a toad. Take a long holiday.
C'était un extrait de Riders on the Storms du groupe The Doors. Vous écoutez Première Page, une chronique littéraire pour lecteurs décomplexés sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. L'épisode du jour porte sur le roman historique « Azincourt par temps de pluie » de Jean Tellet. Azincourt par temps de pluie, c'est également un ouvrage qui fait réfléchir sur notre rapport à l'histoire de France d'un point de vue méthodologique et culturel. Dans ce livre, l'histoire devient plus accessible. Les individus ne sont plus cités au tableau, mais semblent réellement prendre vie. Leur psychologie est décryptée, ils ont leur propre personnalité, des interactions, une hiérarchie. En tant qu'historienne du genre, j'ai particulièrement aimé le regard porté par l'auteur sur la question de la virilité chevaleresque. Perçu par bon nombre comme un idéal, notre écrivain déconstruit cette image parfaite du chevalier et met en lumière des fragilités, non-sens et abus de cette classe sociale qui voit là ses derniers instants. Car aborder le récit historique, c'est aussi ça. S'éloigner des grands événements, des grands personnages et se rapprocher d'une dimension plus humaine. Car l'histoire de France n'est pas un grand film épique, mais un regroupement d'individus comme vous et moi qui répondent à des instincts, des insécurités, des émotions, ne les rendant que plus imparfaits. Les enjeux changent, mais les défauts et qualités, croyances et fulgurances sont toujours les mêmes. En abordant cette matière via des auteurs comme Jean Tellet, on prend, je trouve, davantage conscience du réalisme et de la violence des faits. Dans ce livre, ils attaquent à l'être humain dans ce qu'il est de plus simple. Ils rappellent la peur des Anglais devant le champ de bataille, l'euphorie des Français ivres de victoire, les cris de détresse des soldats torturés, l'odeur des corps en putréfaction. Non, avec Jean Tellet, on est loin du récit grandiose et victorieux que certains tentent de faire prévaloir. Je rappelle tout de même que ce genre de roman ne peut être qu'une première approche et n'a pas vocation scientifique. Mais à défaut d'être une source exacte, l'ouvrage a le mérite de respecter la trame du récit. Contrairement à certaines œuvres qui tendent toujours à rendre l'histoire plus photogénique, à l'image du film Netflix « Le Roi » de David Michaud. Je reviens sur cette œuvre car malgré son fiasco historique, j'avoue l'avoir particulièrement aimée. Censé retracer la bataille d'Azincourt, le réalisateur est parti de l'œuvre Henri V de Shakespeare, considérée déjà à l'époque comme de la propagande pour l'unité nationale anglaise. Le film est une bonne démonstration de ce qu'il arrive lorsque l'on veut rendre le récit historique plus sexy qu'il ne l'est. Un roi d'Angleterre, juste et réfléchi, des protagonistes imaginaires, des reconstitutions bancales, le film prend des libertés, perdant sa visée historique et patrimoniale. Même s'il était comique de voir Robert Pattinson incarner un dauphin de France imaginaire et se débattre avec un franglais maladroit, l'œuvre pose 2-3 questions historiographiques. Le long métrage sera d'ailleurs démoli par Christophe Gilliot, directeur du site dédié à Azincourt, dans une interview menée par Le Parisien que je vous recommande vivement. En bref, on est aux antipodes de la production littéraire du romancier. Dans le livre d'aujourd'hui, la fin n'est pas glorieuse. Elle est sale, violente et on ne souhaite pas à nos acteurs préférés d'incarner l'un des personnages. Enfin, à l'image de la production littéraire de notre auteur, Azincourt par temps de pluie, c'est surtout un roman sincère, sans filtre, dont les connaissances et le pouvoir revigorant méritent d'être largement diffusés. Pour finir, si je dois remercier une dernière fois Jean Tellet dans cet épisode, ce sera pour l'œil acéré qu'il portera sur l'histoire, nous faisant aimer cette matière, non pas comme un roman sage et lisse, mais comme une vaste comédie humaine, drôle, dérangeante, frôlant bien souvent le ridicule et la folie. Pour aller plus loin, je recommande le passionnant « Hommes et femmes au Moyen-Âge, histoire du genre 13e-15e siècle » de Didier Lett, paru en 2013. « Le Roi » de David Michaud, sorti en 2019 pour un petit plaisir coupable. Et enfin, « De trouver chaussures à son pied » dans la vaste production littéraire de notre auteur pour découvrir l'histoire autrement. C'était le 7e épisode de Première Page. Rendez-vous dans 15 jours, même heure, pour une prochaine lecture sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.